Deutsche Welle, Économie et développement.
Se former un métier pour trouver des débouchés sur le marché du travail et mieux affronter la crise économique, exemple au Tchad dans ce numéro. Et puis se repérer dans une ville africaine est parfois un casse-tête. Le CICR a demandé à une ONG de cartographier la ville de Goma dans l'est de la RDC. Objectif, pouvoir mieux cibler les besoins en matière d'assainissement. Vous écoutez le magazine Économie et Développement, c'est Claire-Marie Kostmann au micro. Bienvenue. Au Tchad, une soixantaine de jeunes ont été formés au montage d'antennes paraboliques à N'Djamena. Organisée par le groupe musical Shalom, cette initiative doit permettre l'auto-entrepreneuriat des jeunes. On fait le point avec notre correspondant Darius Tonblaise.
L'électrotechnique est un des secteurs porteurs méconnus par les jeunes au Tchad. C'est pourquoi le groupe musical Shalom a décidé d'initier cette formation. Les organisateurs ambitionnent d'éradiquer le chômage, un véritable fléau qui handicape l'épanouissement socio-professionnel des jeunes au Tchad. Nandigui Maïtol Mikael, coordonnateur du groupe musical Shalom.
L'objectif global, c'est la lutte contre d'abord la pauvreté et la lutte contre le chômage. Les gens n'attendent que la fonction publique, ils n'attendent que des grandes personnes qui doivent donc leur venir en secours. Mais nous avons dit non, il faut toujours initier. Parce que quand on n'a rien à faire, on peut se lancer rapidement dans l'alcool. Et nous voulons mettre terme donc à cette question. Je pense que ça a été donc une promotion exceptionnelle. Nous avons vu des jeunes qui se donnent, qui ont l'abnégation. Ils ont la volonté de comprendre. Et en 7 jours, les jeunes sont capables déjà d'installer l'antenne parabolique. Et c'est ce qui nous a réjoui le cœur. Et nous sommes posé la question, ah bon, s'il y a des jeunes qui sont intelligents et qui sont restés dans leur gouffre, ne serait-ce qu'à les sortir, de leur sordide pétrin, pour qu'ils arrivent donc à se développer comme il se doit. Ça a été une très grande joie et une satisfaction pour nous.
Plusieurs modules ont été enseignés aux jeunes au cours des travaux, ce qui leur a permis de maîtriser les types d'antennes paraboliques, l'assemblage des équipements intervenant dans le montage des antennes, le câblage, la détection des signaux satellitaires, etc. Yang Yadjingé Simon est le formateur.
Pendant une semaine, ce qu'on a appris, c'est montrer à ces jeunes comment installer les antennes paraboliques pour capter les chaînes. Parce que pour capter les chaînes, il faut beaucoup plus utiliser les tasses. Et il y a les fréquences, les paraboles, les positions. Donc, tant que ces jeunes n'apprennent pas, ils vont prendre une parabole et les placer comme ça. Donc, il faut les apprendre comment on peut installer, comment monter les mâts, comment entrer les fréquences, comment orienter les paraboles vers les satellites. On a beaucoup plus mis paquet sur les cas pratiques. C'est ce qui a beaucoup plus aidé les jeunes. Les premiers jours, on a fait les théories. Et les 6 autres jours restants, on a mis beaucoup plus sur les pratiques. Moi-même, j'ai détaché les paraboles. Je les ai montré les différents dispositifs. Et ensuite, je les ai montré comment on peut montrer une parabole. Comment entrer dans un menu, comment orienter les paraboles. Et on a répété ça à plusieurs reprises. Et à la fin, j'ai eu à comprendre que ces jeunes peuvent vraiment faire l'affaire.
Parmi les apprenants figurent également des diplômés sans emploi. Bayramadi Martial Sophoni est l'un d'eux. Technicien en électrotechnique et télécommunication, il a décidé de se recycler à travers cette formation.
Ce qu'on vient de voir vient beaucoup plus renforcer ma formation dans le domaine parce que c'est beaucoup plus basé sur la théorie. Je n'ai jamais eu la chance de toucher à la pratique. Et grâce au groupe Shalom, qui m'a permis de me frotter à la chose comme il se le doit. Donc désormais, je peux installer les antennes sans souci. Étant un électrotechnicien, quelquefois les maisons qu'on électrifie demandent également qu'on installe des antennes paraboliques. Et désormais, ce marché me revient.
Pour les participants, de telles initiatives constituent un véritable appui pour les aider à se prendre en charge.
Moi, j'ai vu que c'est une bonne chose. Depuis toujours, je vois les antennes fixées, mais je ne connais pas. Maintenant, aujourd'hui, je vois qu'il y a un avantage pour moi parce que je connais déjà certaines installations d'antennes. Quand j'étais avant, je ne connaissais rien de tout ce qui se dit antenne en tant que tel.
Cette formation a été bien passée. Maintenant, je connais faire la différence d'une installation. Ce qui me retient au plus depuis ça, c'est que notre encadré nous donne tout.
Mais après avoir fini les études, généralement ici, il est difficile de trouver des accès pour la vie professionnelle. Donc on est obligé de courir de gauche à droite. Et je crois que ce qu'on vient d'apprendre, c'est un métier libéral. Ça nous permettra de trouver de travail très facilement. C'est une très bonne formation. Je pensais qu'une semaine, c'est insuffisant. Mais je me suis rendu compte que c'était vraiment bénéfique. Pendant les une semaine, j'ai beaucoup appris de choses.
Selon les statistiques de l'Institut national de la statistique, en 2014, plus de 10% des jeunes de 15 à 25 ans sont touchés par le chômage au Tchad. Darius Ton Blaise, Andiamena, pour la De Tuile.
La ville de Goma, la capitale de la province du Nord Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo, a vu sa population croître pour atteindre 1 million d'habitants. Et ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver, notamment pour les organismes humanitaires travaillant sur place. Une ONG basée en France a été choisie par le Comité international de la Croix-Rouge pour mettre à jour les données existantes. Plus de 1300 km de routes et 68 000 nouveaux bâtiments ont ainsi été ajoutés. Martin Noblecourt, responsable de Missing Map au sein de l'ONG Carte ONG, nous explique le projet.
On a eu une demande de la part du Comité international de la Croix-Rouge qui avait besoin de données cartographiques pour des projets d'eau et assainissement sur donc la ville de Goma en RDC. Mettre en place des conduites d'eau, des projets d'assainissement, ils avaient besoin de données cartographiques à jour, sachant que les cartes existantes n'étaient pas du tout à jour, elles étaient très obsolètes, elles dataient d'il y a au moins 4-5 ans. Et donc, en fait, on a décidé de remettre la carte à plat à partir du travail de volontaires.
Et comment ça se déroule alors sur le terrain? C'est des volontaires qui repèrent, ah là il y a un bâtiment de plus, là il y a une rue en plus par rapport aux anciennes cartes?
Donc sur Missing Maps, en fait, on a un projet en trois étapes. Donc on a une première étape de cartographie à distance, où grâce aux images satellites, on a des bénévoles qui, partout dans le monde, donc ça peut être en Europe ou ailleurs, vont mettre à jour tout ce qui peut être vu à distance, donc tracer les bâtiments, les routes, les cours d'eau. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'aller compléter sur le terrain. Donc là, soit c'est des bénévoles, soit c'est des personnels des ONG. Donc là, en l'occurrence, c'est plutôt du personnel du CICR qui a été complété les informations contextuelles dont ils avaient besoin. Donc justement, sur tout ce qui va être les questions d'eau et globalement la morphologie urbaine. Et la troisième étape, c'est de réaliser des produits en fait de cartographie qui vont être utiles aux opérations. Donc là, c'est pareil, c'est le CICR qui a pu réaliser des cartes papier en fait pour planifier leur projet à partir de la donnée qu'on avait créée.
Donc là, le CICR est déjà en train d'utiliser la carte. Elle est finie.
Voilà, c'est ça. Donc là, sur ce projet, en fait, on a fait le travail de cartographie à distance en février, mars, avril. Ensuite, on a fait un travail de validation. Le CICR a complété et sur place et réalisé les cartes à peu près en simultané, en fait, pour une utilisation. Sachant que ce qui est intéressant, c'est que la donnée qu'on a créée est ancrée sur un outil qui s'appelle OpenStreetMap, qui est donc l'équivalent de Wikipédia pour les cartes, donc en open data. Cette donnée-là pourrait être utilisée par n'importe quel acteur humanitaire ou de développement par la suite. Donc le travail qu'on a fait là pour le CICR pourra être utilisé par n'importe quel autre acteur.
Et par exemple, elle pourra être utilisée par des ONG locales qui pourraient aussi en avoir besoin?
Oui, bien sûr. Sachant que là, on ne l'a pas fait sur ce cas de figure précis, mais ça nous arrive de faire des formations justement pour des acteurs plutôt locaux, pour leur apprendre à se servir de cette donnée et de ces outils-là, pour pouvoir eux-mêmes réaliser des cartes et s'en servir dans le cadre de leurs opérations.
Par exemple, dans les villes africaines, on se repère beaucoup. Ah oui, là, c'est au coin de la rue où il y a la station-service ou au coin de la rue de l'église. Là, pour les habitants, si les cartes sont en open data, s'ils peuvent y avoir accès, qu'est-ce que ça peut changer pour leur vie quotidienne? Ça peut vraiment l'améliorer? Ça peut aussi servir à des services d'urbanisme, au cadastre aussi, par exemple?
C'est vrai que nous, l'utilité de ce qu'on fait actuellement, elle se place plutôt au niveau d'organisation. Donc des ONG, ça peut être les collectivités locales, effectivement, sur des projets type urbanisme, adduction d'eau, gestion des déchets. Au niveau des individus, des particuliers, ça dépend des pays. Bon, il y a quand même de plus en plus de gens qui, par exemple, vont avoir des smartphones, vont s'en servir parce que la donnée peut aussi être récupérée sur votre smartphone pour avoir une application de cartographie, tout simplement. On a aussi certains projets, donc nous on n'en a pas fait encore tellement, mais où ça va juste être réalisé un plan de ville à partir de ça qui va être distribué. Il y a par exemple un projet très intéressant qui a été fait au Nicaragua où ils ont pu faire un plan des stations de bus en fait, à partir de la donnée contributive OpenStreetMap. Donc voilà, c'est le type de produit qu'on peut réaliser à partir de cette donnée, sachant qu'après c'est à chaque... chaque collectivité, chaque organisation, on fait un peu ce qu'on veut. Nous, on les soutient dans la mise en place de ces produits-là, mais le potentiel est assez important, en fait.
Et est-ce qu'il y a des résistances au fait que, voilà, on parle d'open data, mais est-ce qu'il y a des résistances à cela ?
Alors, il y a de la pédagogie à faire quand on travaille avec des organisations sur les convaincre du fait qu'il vaut mieux travailler sur de l'open data plutôt que de faire leur truc dans leur coin. Parce que finalement, avoir l'information, c'est un petit peu une forme de pouvoir. Mais généralement, quand on va dans les pays du Sud, les réticences s'effacent assez vite parce que les gens voient vite que la mutualisation est beaucoup plus intéressante, notamment en termes de durabilité de la donnée, en fait. Parce que si chacun collecte dans son coin, bah après, dès qu'un projet est terminé, en fait, il n'y aura plus de mise à jour. Alors que le fait que tout le monde travaille sur un outil partagé, ça permet que chacun contribue au pot, en fait.
Et vous avez également fait un projet avec la ville malienne de Diankirdé qui est jumelée avec une ville française. Et là aussi, l'idée, c'était de cartographier pour notamment des projets d'assainissement.
Voilà. Et donc là, on est directement dans ce que je disais tout à l'heure, qui est fournir de la donnée en fait pour une gestion urbaine locale, donc pour une collectivité locale. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait le même processus de cartographie à distance, donc notamment avec les personnes de la ville jumelle en France, donc Ivry. C'était pas mal parce que eux, ça leur permet aussi de découvrir d'une façon différente leur ville jumelle. Et après, aller réaliser une carte complète de la ville pour la première fois, parce que c'est la première fois qu'il y avait une vraie carte détaillée de cette ville qui était réalisée, qui va être remise en fait aux autorités maliennes qui vont pouvoir s'en servir pour la gestion de leur projet. Donc là, dans un premier temps, c'était un simple plan papier, mais après, ça peut ouvrir la porte aussi à une utilisation plus spécialisée de leurs services, avec pourquoi pas des formations. Ça, c'est le genre de choses qu'on aimerait développer par la suite.
C'était Martin Noblecourt de l'association Carte ONG. Et si vous voulez réentendre ce magazine économie et développement, allez sur notre site dw.com/français, puis dans la rubrique médiathèque. Merci pour votre écoute, au revoir et à la semaine prochaine.